le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue.
En mars 1991, le mouvement démocratique s'est battu pour la démocratie, le multipartisme, la liberté d'expression. 28 ans après, quel est le bilan? La relève a-t-elle échoué? L'esprit de cette révolution est-il d'actualité aujourd'hui? Nous en parlons dans ce grand dialogue et nous avons trois invités. Tcheblin Dramé, président du Parti pour la Renaissance africaine, PARENA. Shogel Kokala Maïga, président du mouvement patriotique pour le renouveau MPR. Et Youssouf Maïga, président de l'Association des jeunes pour la démocratie et le progrès. Je suis Mouhamadou Touré, chers auditeurs, internautes et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Vous nous suivez en direct sur Facebook et sur 70 radios à travers le Mali, également sur Énergie TV et Renouveau TV. Et l'essentiel des questions par rapport à ce thème sont posées par les internautes. Et nous allons commencer par cette question de Gisèle Flanda qui demande « Je peux savoir déjà en dehors de se libérer de la dictature du général Moussa Traoré, quelle était la vision pour le Mali des acteurs de la révolution de mars 91, Monsieur Tcheblin Dramé ?»
Merci beaucoup. La vision, c'est la démocratie, c'est extrêmement important. C'était un des objectifs majeurs. Permettre aux Maliens de choisir librement leurs dirigeants. Faire respecter les libertés démocratiques fondamentales. Liberté d'expression, liberté d'association, liberté des manifestations pacifiques. Et puis, bien entendu, permettre aux Maliens d'accéder à la justice sociale, réduire les inégalités. Je crois que de ce point de vue-là, la révolution du 26 mars a permis la réalisation d'un certain nombre d'objectifs importants. Pensez seulement au nombre de lycées qui existaient en 1991, une vingtaine. Et aujourd'hui, je parle de lycées publics, et aujourd'hui, vous avez 75 lycées publics au Mali. Je ne parle pas des lycées privés qui sont des centaines, n'est-ce pas, dans le pays. Ça, c'est la liberté. Les centres de santé, l'accès à la santé. Vous pensez au nombre de centres de santé en 1991 et l'explosion qu'il y a eu. Je prends seulement ces quelques exemples pour dire que la démocratie est qualitativement supérieure à l'absence de démocratie. Je crois qu'il n'y a pas de débat à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pourquoi je vous interpelle un tout petit peu. Parce que ce 26 mars 2019 aurait dû être consacré à autre chose, au regard de l'actualité malienne. La maison Mali brûle, il y a des atteintes fondamentales à la raison d'être même de notre nation. Je pense qu'il aurait dû avoir un débat sur cela. Ce qui s'est passé à Ouagadougou, ce qui s'est passé à Kolongo il y a 3 mois exactement, et ce qui s'est passé dans les campements Idaoussac, à Aglaz, à Tassalatine, à Ikawasa, etc., des massacres terribles qui se passent dans notre pays aujourd'hui et qui nous amènent, qui font que chaque Malien a aujourd'hui peur. Je crois que cela aurait dû être franchement l'objet de ce débat-là, plutôt que ce regard sur le passé, sur des acquis de la révolution démocratique, parce que cela va de soi. Les acquis du 26 mars vont de soi.
Il est important de revenir sur le passé pour aller loin. Nous avons animé un débat sur le sujet dont vous parlez. C'était lundi dernier sur Studio Tamani. Alors, Shogel Kokela Maïga, cette vision en mars 1991 était-elle réellement fondée?
Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie pendant ces événements et depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, y compris les derniers citoyens maliens qui ont perdu leur vie dans des conditions atroces dont vient de parler Tcheblin. Vous savez, en mars 91, sincèrement, je ne crois pas d'ailleurs qu'il y avait des Maliens, peut-être qu'il y en avait quelques-uns, qui était opposé au fait que notre pays devait faire un pas qualitatif vers la démocratisation au sens moderne du terme. Je suis bien placé pour le dire parce que j'étais militant du parti unique qui exerçait le pouvoir en ce moment. Et je savais que pendant un an, des débats intenses souvent qui conduit souvent même à des déchirures dans le parti ont eu lieu. Parce que vous savez, tout processus politique, au début, a ses partisans et ses adversaires. Plus on avance, plus la vérité s'impose à tout le monde. Je voudrais rappeler que la première fois qu'on a posé cette question du multipartisme, c'est en décembre 89. Parce que c'est important de réfléchir un peu la mémoire de la nouvelle génération. Ce jour-là, c'est un cadre qui a interpellé le chef de l'État, décembre 89, au Palais de la Culture, à une conférence des cadres de l'UDPM. Et je me rappelais que ce jour, l'un des premiers intervenants, c'était le secrétaire général de l'UNTM, qui a dit au président Moussa, écoutez, si c'est pour nous ramener dans la situation où le PSP et le RDA prenaient des coupes-coupes pour se tuer en ville, ça se fera sans nous. Le débat s'est arrêté net. En mars 90, le président a demandé expressément d'organiser un débat qu'on appelle l'exercice de la démocratie au sein du parti. Parce que c'est devenu évident pour tout le monde qu'on ne pouvait pas éviter la transition vers le pluralisme politique. Ce débat a été organisé au stade de Modibo Keïta. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont devenus célèbres au Mali à partir de ces interventions. Ce jour-là, le professeur Ali Ndiallo, Kadiatou Si, Ibane Diaye, Soumelou Boubemega, Ali Ndiallo, beaucoup de cadres ont intervenu pour effectivement mettre le pied dans le plat. Mais je précise que c'était une conférence des cadres de l'UDPM, et ils n'étaient pas de l'UDPM. Après, il y a eu toutes les organisations nationales, le syndicat, le barreau, qui ont successivement demandé d'accélérer le processus vers l'ouverture. Et en juin 90, il y a eu ce fameux débat au sein de l'UDPM, où pratiquement pour adopter l'ordre du jour, des heures sont passées, au point que le président a intervenu pour dire, écoutez, on arrête le débat, au mois d'août, on convoque un conseil extraordinaire à l'effet d'aller à l'ouverture. Mais entre-temps, la guerre a éclaté. En août, on était en pleine guerre. Et donc, il avait été décidé qu'il faut reporter le processus d'ouverture le temps de finir la guerre. Personnellement, je pense, et je le dis souvent quand je discute avec les anciens, l'une des grosses erreurs que nos aînés ont fait, c'était de ne pas accélérer le processus. Surtout que la guerre, pour l'essentiel, était terminée en septembre. Parce que la rébellion a été contenue militairement. On a traîné le pas. Il y a eu en ce moment les mouvements de contestation qui ont pris le devant de la scène. Et je dois dire qu'au mois de janvier, février, mars, en réalité, il était clair dans le parti même, sur à peu près 56 sections, pratiquement les 48 avaient demandé l'ouverture immédiatement. Et malheureusement, et c'est ce que nous regrettons tous, le processus de transition pacifique ordonné n'a pu avoir lieu pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici parce que ça va
se... Mais selon vous, cette révolution était-ce pour la démocratie, pour un cadre de vie plus stable ou pour autre chose?
Je crois que comme il a été dit, les Maliens voulaient une transformation qualitative de leur vie sur tous les plans. D'abord sur le plan politique, c'est celui qui était plus visible. Mais la masse de jeunes qui étaient dans la rue, c'était pour l'emploi, c'était pour plus de justice sociale, pour plus de justice. C'est pour ça que les Maliens, plus un meilleur vivre, lutter contre les conséquences des programmes...
Donc cette révolution était justifiée.
Mais le changement, personne ne peut nier que c'est justifié. Je dis, moi, la contradiction, là où je suis en contradiction avec certains acteurs, c'est-à-dire c'est le momentum, la transition vers le multipartisme. Honnêtement, la cassure qu'il y a eu, les violences qu'il y a eu, les morts qu'il y a eu, je crois honnêtement que notre peuple aurait pu les éviter. Mais c'était notre débat parce que aujourd'hui, comme il l'a dit, ce qui intéresse les Maliens aujourd'hui, c'est vraiment que faire pour ne pas continuer à sombrer. Parce qu'en vérité, quand vous
regardez... D'accord, nous allons y revenir. Monsieur Youssouf Maïga, vous faisiez partie des jeunes qui ont participé à cette révolution. La question d'Agissa Diko, c'est est-ce que les objectifs de la révolution du 26 mars 1991 ont été atteints?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer tous vos auditeurs et aussi m'incliner sur vraiment les disparus de mars 91 et aussi les victimes récentes aussi, parce que nous sommes dans une situation de crise et toutes les victimes qui tombent aujourd'hui, pour moi, ce sont des martyrs. Donc, ils sont tombés, en fait, pour honorer le peuple malien, pour qu'un meilleur Mali puisse voir le jour. Effectivement, les jeunes se sont battus en mars 91 pour un Mali meilleur. Et nous, qui étions les plus jeunes, par rapport vraiment à nos aînés, et Tchiblin Dramé et autres, donc c'était par rapport surtout à l'éducation et à l'emploi. Parce que nous avons souhaité réellement qu'il y ait un changement qualificatif dans ce domaine. Nous avons voulu qu'effectivement les jeunes puissent être mieux formés, mieux éduqués pour faire face au marché de l'emploi. Parce que quand on sortait des écoles, effectivement la formation par rapport à maintenant, il n'y a pas de commune mesure. C'est pourquoi je ne suis pas très bien mon grand frère Thiéblé quand il dit que ce débat n'est pas d'actualité. Parce que je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on fasse un recul pour voir où est-ce que nous avons trébuché pour que nous soyons aujourd'hui dans cette crise. Parce que la crise, quand il y a une crise, comme on le dit, là où on tombe, ce n'est pas là où il faut regarder. C'est là où nous avons trébuché.
Donc vous pensez que cette crise que le Mali vit aujourd'hui est un des résultats de l'échec de la révolution de mars 91?
Je ne parlais pas d'échec, mais je dirais qu'il y a eu beaucoup, en fait, de difficultés, beaucoup, en fait, d'erreurs qui ont été commises, beaucoup de fautes qui ont été commises aussi. Nous avons pris, en fait, les rênes du pouvoir en mars 91. Et de mars 91 à maintenant, ce sont des acteurs du monde démocratique qui ont géré ce pays, et à tous les niveaux. Président de la République, chef du gouvernement, ministre et beaucoup d'autres hauts cadres. Mais pourquoi nous sommes encore à ce niveau? Parce qu'en réalité, les intérêts personnels ont pris le devant par rapport à ce que les Maliens aspiraient en mars 91. Chaque fois que certains arrivent au sommet de l'État, à une position stratégique, en fait, ils pensent à eux-mêmes d'abord. Ils oublient les idéaux pour lesquels nous sommes battus en mars 91. Et je pense que c'est cela qu'il faut aujourd'hui débattre pour que réellement les uns et les autres sachent quelles sont les erreurs qui ont été commises et qu'on puisse les corriger. Parce que pour nous, aujourd'hui, le Mali est dans une situation très difficile. Mais c'est vraiment une résultante de beaucoup d'erreurs et beaucoup de fautes qui ont été commises.
D'accord, Tchiblin Dramé, en tant qu'acteur, reconnaissez-vous avoir commis des erreurs comme le souligne?
Je voudrais d'abord dire qu'on pourrait allonger la liste des acteurs du mouvement démocratique. Il a dit président, premier ministre, ministre, il y a aussi les directeurs généraux, n'est-ce pas? Exemple lui-même, n'est-ce pas? Qui sont encore aux commandes. Mais ce n'est pas ça le problème. Nous sommes le 27 mars 2019. La maison Mali brûle. Et je pense que nous avons mieux à discuter que de regarder dans le rétroviseur. Franchement, il faut ce regard sur le passé aurait pu être utile à un autre moment, mais pas aujourd'hui où les fondations même de la nation sont menacées.
D'accord, la révolution de mars 91, un des objectifs c'était d'empêcher que la maison brûle, c'est ça?
C'est cela.
Comme c'est le cas aujourd'hui.
Oui.
Alors si la maison brûle aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que la révolution a échoué?
Non, écoutez-moi bien, on ne peut pas dire que la révolution de mars 1991 a échoué parce qu'il y a aujourd'hui des difficultés. Il faut examiner, analyser la portée des difficultés, la nature des difficultés qui nous ont conduits là. Mais le débat dans lequel je ne voudrais pas m'engager aujourd'hui, c'est franchement savoir est-ce que c'était nécessaire de faire la révolution, mais ce n'est pas un débat, c'est une lapalissade. Tout le monde est d'accord. Même si vous demandez au président Moussa Traoré aujourd'hui, il vous dira que le multipartisme est qualitativement supérieur au monopartisme, que la démocratie est supérieure à l'absence de démocratie, au régime de parti unique ou à la dictature militaire. Cela va de soi. Même le président Moussa Traoré vous le dira. Et lui, pourtant, il a incarné un moment l'opposition à cette démocratie-là, à cette démocratisation du pays. Il en bénéficie même, parce qu'il est ancien président de la République du Mali. Il vit à Bamako, j'espère, tranquillement. Et ce n'est pas, ce n'a pas été le cas de tous les anciens présidents
comme
du Mali.
Vous dites, pas mal de Maliens,
terminer
pas,
simplement
oui, pas
pour
mal
dire...
C'est sûr, dans la même lancée. Pas mal de Maliens sont d'accord avec l'utilité du multipartisme, de la démocratie, de la liberté d'expression. Mais qu'est-ce que ça a changé pour le Malien lambda?
Mais comment pouvez-vous dire que ça a changé? Interrogez ceux qui ont été dans les prisons avant la démocratisation. Interrogez ceux qui étaient emprisonnés, torturés, mutilés pour avoir diffusé un tract. Interroger ceux qui sont frappés, envoyés dans le désert. pour avoir exprimé leurs opinions. Si vous voulez qu'on parle de ça, on finira pas d'en parler. Le premier président du Mali indépendant, le président Modibo Keïta, le père de l'indépendance, est mort en prison. Nous voulons faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent pas au Mali. Et d'ailleurs, moi je peux vous dire qu'en 1991, j'étais de ceux qui insistaient pour que le président Moussa Traoré, son épouse et ses compagnons fussent traités avec le respect inhérent à la dignité humaine, avec la considération due à leur rang passé. Mais tout ça, c'est la démocratie. L'absence de démocratie, c'est justement le revers, c'est le contraire de tout cela. Donc ne venez pas nous dire que la démocratie a échoué parce qu'aujourd'hui, il y a Koulongo, parce qu'aujourd'hui, il y a Ogossagou, parce qu'il y a les pogroms qui se passent au nord-est de notre pays, dans les campements Idaoussac. Non, notre pays a connu une évolution historique dont on peut marquer les repères, les dérives dans la gouvernance qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est cela qu'il faut corriger. Le pays va mal, les fondations du pays vont mal, des têtes sont coupées, des femmes en état de grossesse ont été assassinées, mutilées, des dizaines d'enfants sont morts il y a une semaine, moins de 10 jours, quelque part dans ce pays de vieille civilisation. C'est cela qu'il faut qu'on discute, s'il vous plaît. Si vous continuez à vouloir nous démontrer que la révolution a été un échec,
Monsieur Dramé, cette question de Baïdi Sissoko me permet de relancer le sujet. Il dit « La démocratie, au-delà de l'exercice populaire du pouvoir, est axée sur la justice, la liberté, l'égalité, l'équité. La démocratie suppose le droit à l'éducation, au logement, à la santé, à l'alimentation, à l'emploi, à la sécurité et à la protection. Après 28 ans d'exercice démocratique, peut-on dire que le peuple malien est satisfait de ses dirigeants dit démocratique ?
C'est à eux, non dirigeants, dirigés, de dire s'ils sont satisfaits de leurs dirigeants. La révolution de mars 1991 a mis en place une constitution qui a prévu les mécanismes qu'il faut pour protéger les libertés démocratiques, pour changer les dirigeants de façon périodique, pour faire en sorte que les élections se tiennent comme il faut. Il se trouve que la pratique, c'est autre chose. Et c'est cela qu'il faut que les Maliens, ensemble, s'engagent à corriger.
Et qui est responsable de cela ? La pratique, c'est autre chose.
Je ne veux pas dire comme certains, un ben au dos. Il est évident que ceux qui ont dirigé le pays ont, à des périodes particulières, une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais que le 26 mars ait ouvert une ère nouvelle de construction démocratique, de construction nationale, de paix, attention, de paix, négocié avec, à l'époque, les deux principaux groupes du Nord, n'est-ce pas, en 1991, ouvrir une longue période de paix et d'intégration nationale jusqu'à ce que le Mali s'est effondré. Mais je pense que ça, ce sont des réalités qu'il faut reconnaître. La préservation du cadre démocratique qui fait que, quoi qu'on en dise, même si le droit de vote des citoyens est aujourd'hui un problème, le cadre démocratique et républicain a été préservé. Cela aussi est important. Ne fermons pas les yeux là-dessus. Qu'une large partie de Maliens ait aussi eu accès à la mobilité sociale. Que la mobilité sociale ait été une réalité, cela aussi est une des réalités, est un des objectifs de cette révolution démocratique. Cela dit, il y a des inégalités criardes. La corruption fait des ravages dans ce pays et continue d'en faire. Et la démocratie aujourd'hui, nombre de Maliens s'interrogent là-dessus, au point que moi je fais partie de ceux qui se disent si on continue à faire des élections comme on en a vu en juillet-août dernier, ce sera la fin de la République, ça sera la fin de la démocratie. Et d'ailleurs, des acteurs du mouvement démocratique ne sont pas les seuls à le penser. Nous, les Maliens sont nombreux sur la scène politique à croire qu'il est important d'entreprendre des réformes, de réussir ces réformes-là.
D'accord, nous allons y revenir. Choguel Kokalamaïga, Baïdi Sissoko demande, il dit, de 1992 à nos jours, est-ce que les différents régimes politiques successifs ont été démocratiques ?
Vous savez, l'histoire d'une nation, c'est des étapes. Il faut prendre chaque étape et l'analyser objectivement. Quand vous prenez les paramètres d'un régime militaire ou un régime de parti unique, de fait ou constitutionnel, et vous, à travers leur prisme, vous voulez analyser une situation d'un système démocratique, en général, on fait des mauvaises conclusions. Vous savez, en 1991, effectivement, Le président Tshiebwe a parlé des prisons, ceux qui ont été envoyés au nord, notre premier président qui est décédé en détention. Mais en mars 91, ce débat n'était pas d'actualité. En mars 91, il n'y avait aucun prisonnier politique. Ce qui s'est passé dans les années 70, je pense que le président Moussa lui-même et le parti au pouvoir, le gouvernement, ont essayé de le corriger. En mars 91, il n'y avait personne en prison. Maintenant, dans notre histoire, il y a beaucoup de drames. Les premiers qui ont parlé au nom du Mali, les Filidabo Sissoko, les Marawaka Sunkri, les Amadou Ndiko, leurs familles ne savent même pas où ils sont enterrés. Donc les drames, chaque régime a ses morts dans les placards. Donc ce n'est pas le débat. Maintenant, concrètement, en mars 91, je dis que la quasi-totalité, sinon tous les Maliens, voulaient un changement. Toute la question, c'était comment négocier ce virage.
Est-ce qu'ils ont eu ce changement en réalité?
Je pense sincèrement qu'un certain nombre de personnalités ont saisi les véritables aspirations de la population pour s'emparer du pouvoir. Une fois qu'ils se sont emparés du pouvoir, la réalité dans la gouvernance est totalement contraire à ce qui a été fait. De toutes les façons, quand vous prenez un régime 30 ans après, vous avez toujours quelque chose que vous allez montrer. On ne peut pas dire que, par exemple, les Maliens s'attendaient à ce qu'il n'y a plus de lycées. En réalité, moi, je continue de croire que ce n'est pas plus de lycées que les Maliens ont besoin. Les Maliens avaient besoin de plus d'écoles professionnelles. Ça ne sert à rien de mettre des lycées quand il n'y a pas d'université. À l'hôpital d'université, il n'y a pas de débouché. C'est-à-dire, tout ça, ça a été jeté à l'eau. Je crois que l'une des erreurs fondamentales de ceux qui ont pris le pouvoir après le 26 mars, c'était que les véritables aspirations de tous les Maliens au nom desquels le changement a eu lieu ont été édulcorés, mais les gouvernants, les gens ont continué à persister dans le mensonge.
Est-ce que vous vous sentez inclus ou exclu de ce lot?
Mais moi, je ne suis pas exclu des Maliens. Moi, je suis un acteur du changement. Seulement, je n'étais pas de l'autre côté. Je n'étais pas dans la rue. Mais,
mais quand ça a changé après mars 91, après cette révolution, après mars 91, les régimes qui ont suivi,
vous savez très bien qu'il y a eu une longue période d'ostracisme vis-à-vis de nous. Ensuite, on a eu des présidents qui ont tenu un discours rassembleur. Amadou Toumani Touré, quand il est venu en 2002, vous vous rappelez de son discours, retrouvons ce qui nous unit. Quand un président dit ça, je pense que ne pas accepter la main tendue, c'est faire preuve de mauvaise foi, parce que l'histoire, il fallait qu'on avance. Maintenant, je pense honnêtement que l'erreur fondamentale que lui-même il a commise, je le dis à qui, c'est que la gestion de l'armée, parce que n'oubliez pas que c'est l'école et l'armée qui ont été utilisées comme marchepied pour faire le renseignement du régime. Mais regarde l'état de ces deux structures aujourd'hui, 30 ans après. L'école aujourd'hui, tout le monde sait, le niveau de l'école, c'est pratiquement la dernière des écoles dans la sous-région. Tout ce que nous vivons aujourd'hui en réalité comme difficulté, c'est l'échec dans la sécurisation du pays. C'est parce que l'outil principal de souveraineté d'un État qui est son armée, ses forces armées de sécurité, a été mis au second plan. Parce qu'on a pensé que la démocratie, c'est pas d'armée. Tout État qui ne consolide pas son armée et son système de défense et de sécurité est appelé à subir ce que nous subissons aujourd'hui. Ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, en réalité, c'est l'absence de l'État, c'est l'échec de l'État pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Bon, ça maintenant, le maître, vous savez, il y a un générique, mars 91 a échoué, c'est excessif, moi je ne veux pas parler comme ça. Ce que je veux dire, c'est que quand vous faites le bilan, je suis certain que si en 91, on allait dire aux Maliens que 30 ans après, il allait être en train de s'entretuer, on allait avoir plus de chômeurs dans la rue, la corruption allait atteindre le niveau où il est, notre armée allait être la dernière de la sous-région, allait être la plus forte, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens allaient s'engager là-dedans.
D'accord,
mais ça, c'est le passé encore. Tournons-nous vers l'avenir maintenant.
On va y revenir tout de suite, Youssouf Maïga. Êtes-vous d'accord que la révolution aujourd'hui a permis de monopoliser le pouvoir par certains, comme le dit Choguel Kokala Maïga? Parce que depuis la révolution de 1991, on a l'impression que ce sont les mêmes acteurs qui se sont succédés au pouvoir.
Merci beaucoup. Ce que je voulais d'abord rappeler, c'est que la jeunesse s'est battue pour des aspirations bien précises. Je l'ai dit tantôt, l'école, l'emploi surtout. Et par rapport à ces deux aspects, nous avons dit que, certes, il y a eu beaucoup d'avancées dans d'autres domaines. Il y a eu l'ouverture démocratique, il y a eu le multipartisme intégral, il y a eu la liberté d'expression, d'association. Il y a eu beaucoup de libertés qui ont été quand même acquises. Mais pour nous jeunes, ce qui reste encore à faire, c'est vraiment le problème de l'éducation et de l'emploi. Et c'est par rapport à ça que j'interpelle mes aînés. Parce que moi, je ne vois pas seulement un président de la République seulement. C'est vrai, c'est la première personnalité morale du pays, mais chacun à son niveau doit faire ce qu'il doit faire. Depuis combien de temps nous avons eu quand même des ministres qui ont géré le système éducatif, qui ont...
Excusez-moi, M. Oui. Maïga, vous interpelliez en mars 91, à l'époque vous étiez jeune. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait depuis mars 91 pour vous, jeune à l'époque, et pour vos jeunes frères aujourd'hui?
Oui, je vous le dis clairement, c'est-à-dire qu'à l'AJDP, nous avons toujours interpellé les gouvernants par rapport à ce stade.
Mais au-delà de l'interpellation, en termes d'action, qu'est-ce que vous avez fait?
Oui, l'interpellation est une action, n'oubliez pas cela. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'étions pas aux affaires, nous n'étions pas ministres. Est-ce que c'est nous qui pouvons faire changer les choses directement? Ce qu'on peut faire, c'est vraiment l'interpellation pour que les choses changent. Et je peux vous rappeler, tous les 26 mars, après le dépôt de GER par le président de la République, on faisait une conférence de débat, une conférence de presse pour interpeller les gouvernants, pour leur dire que voilà, nous nous sommes battus vraiment pour quelque chose et nous ne voyons pas cela. Parce que pour nous, la diplomatie, ce n'est pas simplement avoir la liberté d'association.
Êtes-vous en train de dire que ceux qui étaient plus âgés que vous, vous ont trahi?
Je dirais que beaucoup n'ont pas joué leur rôle.
Et vous, jeunes, vous avez joué vos rôles?
Nous avons joué notre rôle.
Alors, tu voulais me réagir?
Pourquoi je le dis? Nous avons joué notre rôle. Et je vais même vous dire une chose. Après mars 91, on nous a même dit, vous les jeunes, vous avez joué votre rôle historique. Vous êtes appelés maintenant soit à vous muer en partie politique ou à disparaître.
On vous a dit ça, mais est-ce que vous-même, jeunes, vous l'avez constaté?
Mais ça a été dit clairement. Et ça a été fait dans les actes.
Pourtant, alors que logiquement, n'a pas changé.
Logiquement, on aurait dû utiliser ces associations du mouvement démocratique pour être vraiment des leviers pour asseoir la démocratie.
D'accord, je vais vous donner la parole tout de suite. Thieblien, allez-y.
Merci beaucoup. Je pense que là on est en train de partir sur des non-dits, sur des quiproquos. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes aujourd'hui le directeur général d'un des organismes étatiques les plus importants pour la survie même du Mali. Et vous ne pouvez pas dire que nous, les jeunes, ce sont les grands frères que vous interpellez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Disons les choses comme il faut. Et justement, le ministre Choguel Maïga, le président Choguel Maïga, est exactement l'exemple de ce qui contredit ce que vous deux, vous dites. À savoir qu'il y a eu les acteurs du 26 mars qui ont géré. Lui-même, il a dit qu'il n'était pas acteur du 26 mars. Il était acteur du changement, mais il n'était pas dans le camp de la révolution du 26 mars. Il y a eu trois présidents au Mali. Il a été ministre de deux présidents, de ces deux sur trois. Donc ça veut dire que la participation à la gestion des affaires du pays n'a pas été l'apanage des seuls acteurs du 26 mars. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, moi, je voudrais dire quelque chose. Il a dit que les acteurs du 26 mars se sont emparés des aspirations profondes des gens pour pouvoir prendre le pouvoir. Et quand ils ont pris le pouvoir, c'est l'école et l'armée. Je voudrais, faisons attention. La première rupture dans la chaîne de l'armée, ça a été le coup d'État du 19 novembre 1968. Quand des officiers, dans le jargon militaire, on les appelle officiers subalternes, prennent la réalité du pouvoir, mettent en prison ou à l'écart les colonels, les lieutenants-colonels et autres, en ce moment-là, c'est créer une nouvelle réalité au sein de l'armée. Et ça, les conséquences de ça, par la suite, dans la chaîne de commandement, dans la discipline aux yeux des troupes, c'est pas moindre dans ce qui a été progressivement les problèmes que nous avons rencontrés. Après, il y a eu la rébellion, c'est vrai, à partir de juin 1990, le MPA et le FIA, avec lesquels le pouvoir du président Moussa Traoré a bien négocié et a conclu un accord en janvier 1991 à Tamanrasset. 7. C'est connu sous le nom de l'accord de Tamanrasset. 7. Et cet accord de Tamanrasset 7 dit quoi? Que le gouvernement du général Moussa Traoré accepte que les garnisons soient dégarnies, que les troupes soient redéployées, soient dégagées des zones, etc. Et cet accord de Tamanrasset, je le dis et je le répète, a été la mère de tous les accords conclus au Mali, le pacte national en 1992 et par la suite l'accord d'Alger de 2006 et l'accord d'Alger de 2015. C'est la gémellité, je le dis. Le fait que ça se ressemble comme une goutte d'eau, il n'y a pas d'ailleurs pas
de. Il y a Jack Koné qui vous pose une question. Il demande pourquoi la démocratie malienne a échoué jusqu'à aujourd'hui, pourquoi les fonctionnaires sont devenus milliardaires du jour au lendemain, pourquoi les institutions ne sont pas fortes et les malfaiteurs ne craignent pas la justice aujourd'hui.
Premièrement, la démocratie malienne n'a pas échoué. On ne peut pas faire des affirmations comme ça. Nous sommes encore aujourd'hui dans un cadre démocratique. Vous dites que vous êtes diffusé sur 70 radios à travers le Mali. Ça, c'est la démocratie. La démocratie malienne est imparfaite, mais on ne peut pas dire qu'elle a échoué.
Pourquoi
que la corruption,
les fonctionnaires sont
s'il vous plaît, que la corruption, j'allais en parler, que la corruption ait atteint des sommets jamais égalés dans ce pays pendant la démocratie est une réalité. C'est une des plaies de notre démocratie. C'est un des cancers de notre démocratie qu'il faut qu'ensemble, on voit comment corriger, qu'il faut guérir et qu'il faut soigner. On ne peut pas, à partir de là, dire que la démocratie a échoué. Nous ne sommes pas revenus dans un régime de parti unique, de dictature militaire. Il faut que les gens qui disent ce genre de propos fassent attention. Parce que, on l'a vu, en mars 2012, les reculs sont possibles. La démocratie ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir en arrière un jour. Vous avez vu comment nous avons frôlé la catastrophe. Nous avons été à deux doigts de la catastrophe. Vous savez, dans ce vieux pays, en mai 2012, on a pris un chef de l'État, on l'a frappé, on l'a battu, dans des conditions ignominieuses. Ça, c'est un vieux pays d'histoire où il y a eu des royaumes, des empires, il y a eu des chefs d'État, il y a eu même pendant cette période de coup d'État, mais jamais on a vu qu'on a pris un chef d'État, qu'on l'a humilié, qu'on l'a battu, et les Maliens sont assis, ils regardent. Attention. Donc, c'est possible. Tout n'est pas irréversible, mais ne disons pas que la démocratie est un échec. Si la démocratie est un échec, où sommes-nous ?
Monsieur Maïga, il y a Massina Souleymane qui demande, êtes-vous d'accord avec lui ? Les acteurs de la démocratie ont été de mauvais exemples pour le peuple malien. La démocratie malienne, c'est la corruption, l'imposture, le partage du gâteau et le népotisme.
Je viens de dire que les aspirations du peuple malien en mars 1991, qui était plus de démocratie, plus de liberté, plus un meilleur vivre. Je suis convaincu qu'on soit avec ce qu'on appelle les acteurs du 26 mars ou non, c'est tous les Maliens qui aspiraient à ce changement.
Les acteurs ont-ils été des mauvais exemples, comme ils le pensent, Massina Souleymane ?
Bien sûr, je vais venir à mon qualificatif. Maintenant, il y a quand même quelques mises au point que je voulais faire. Vous savez, le fait de participer à un gouvernement, le président Tchibli a parlé du fait que j'ai été dans deux gouvernements. Vous savez, depuis que le président Moussa a quitté le pouvoir, sous la transition, on avait le chef de sa garde présidentielle de 1980 jusqu'à la nuit de son arrestation et un de ses anciens ministres qui ont dirigé la transition. Quand on est allé aux élections de 92, c'est deux de ses anciens ministres, Alpha Omar Konaré et Tchibli Konaté, qui se sont retrouvés au deuxième tour. Quand le président Konaré était élu, c'est l'un des cadres que Moussa a mis à la tête, la BCAO, qui est devenu son premier ministre. Donc le fait d'avoir été dans un gouvernement, si ça devait être le qualificatif, j'allais dire que ce qu'on appelle les acteurs du mouvement démocratique, en réalité, ils partagent les responsabilités parce que, prenez depuis 91, combien d'anciens hauts cadres de Moussa ont exercé, soit président, soit ministre, soit premier ministre. Et souvent, derrière chaque fois que c'est difficile, c'est eux qu'on va chercher. Ça veut dire qu'il y avait des critères de choix de ces cadres-là. Mais on a voulu tout mettre à l'eau pour dire que tout était mauvais. Ça fait partie des erreurs, justement. Parce qu'une nation, elle se construit sur plusieurs générations. Les erreurs et les fautes d'un régime doivent être analysées à l'aune des intérêts du peuple et construire, retenir ce qui est bien et construire sur cette base-là. C'est ce qu'on a refusé en mars 91. Après mars 91, on a dit que tout est mauvais. L'accord de Tamara 7 qui a été signé, c'est un accord de cesser le feu. Ce n'est pas le même accord que les autres. Ça a été négocié en une nuit.
D'accord. Voilà. Est-ce que les acteurs ont été de mauvais exemples ?
Là, il y a des choses quand même que c'est bon de les dire aux Maliens. En mars 91.
Oui, répondez juste à cette question, après vous allez revenir aux autres. Est-ce que les acteurs ont été de mauvais exemples ?
Vous savez, par respect pour les hauts responsables qu'ils ont été, c'est déjà des qualificatifs, je me garde les données. Je constate seulement que ce pourquoi le changement a eu lieu n'est pas. Le fait qu'on ait beaucoup plus d'espace d'expression aujourd'hui, de toutes les façons, quel que soit le régime qui serait là, 30 ans après, on n'allait pas être dans ce qu'il y avait en 91. Ce qu'il y avait en 91 était différent de ce qu'il y avait en 1968.
D'accord, je pose la question à M. Maïga. Est-ce que les acteurs ont été de mauvais exemples? Je vous redonne la parole tout de suite.
Oui, en fait, c'est le débat de fond que nous posons. J'ai dit, et peut-être mon grand frère Thibault ne m'a pas compris, en réalité, chacun à ce niveau doit jouer sa partition. Ce n'est pas seulement le président de la République qui fait les choses. Chacun, qu'il soit ministre, qu'il soit directeur, qu'il soit même un simple agent, doit jouer sa partition. Mais malheureusement, beaucoup de nos aînés n'ont pas joué leur partition. Quand ils sont partis en mission dans les gouvernements pour occuper des postes stratégiques, ils n'ont pas joué leur rôle. Et c'est pourquoi, en réalité, nous avons flanchi.
Est-ce que la jeunesse a joué son rôle? L'AM d'avant et l'AM d'aujourd'hui, est-ce les mêmes?
Pas l'AM, la jeunesse, les jeunes qui sont venus, est-ce qu'ils jouent leur rôle aujourd'hui?
Nous jouons notre rôle.
Vous êtes aux commandes, est-ce que vous jouez votre rôle?
Dans tous les cas, vous voulez prendre mon cas ceci?
Non, je ne prends pas votre cas.
Est-ce que vous pensez que vous êtes manipulé, les jeunes? Est-ce que les jeunes sont manipulés?
Non, ça dépend. Il peut y avoir des jeunes manipulés, mais je peux vous dire, à l'AGD, ils ne sont pas manipulés. Si nous sommes manipulés, nous sommes manipulés par, en fait, les idées du 26 mars, parce que nous avons à cœur de les réaliser. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut faire ce débat pour qu'on dise effectivement ce qui ne va pas et qu'on puisse toucher du doigt ce qui ne va pas et qu'on puisse les corriger. Si on ne le fait pas aujourd'hui, nous allons rester demeurés dans cette erreur. Depuis 1991, nous sommes là. L'école ne bouge pas.
Si on le fait pas, pensez-vous, comme la question de Diakoné, le Mali n'a-t-il pas besoin d'une autre révolution pour bannir ces mots qui minent notre société?
Non, la révolution a été déjà faite. Nous savons déjà ce qui doit être fait. Et
qu'est-ce qui doit être fait?
Ce qui doit être fait aujourd'hui, chacun doit s'assumer et jouer son rôle. C'est la démocratie, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer librement, donne ses idées et que chacun, à son niveau, quand il est mis à un poste de salité, qu'il puisse jouer pleinement son rôle et qu'il puisse aller vers la station des besoins fondamentaux des Maliens. C'est ça, en fait, ce que nous recherchons. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous allons tourner en rond et nous n'allons jamais trouver la solution. Depuis combien de temps nous avons, les acteurs du mouvement qui sont au pouvoir, mais nous n'arrivons pas à trouver la solution. Pourquoi? Parce que réellement, dès que quelqu'un vient aux affaires, il pense à lui-même d'abord. Il ne pense plus au pays.
D'accord. Et que faut-il maintenant? Je vous redonne la parole.
On fait toujours dire souvent qu'il y a ce que la masse veut, ce que le peuple veut, et il y a des hommes qui tirent les marrons du feu. Et après, on regarde le résultat. Vous savez, une politique, on peut la défendre ou la critiquer. Une politique, on la juge toujours au résultat, parce que les gens disent. Je dis qu'en mars 91, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent avoir l'appréciation qu'ils veulent sur l'armée.
Il reste peu de temps. L'armée,
malienne, c'était l'armée la plus forte dans la sous-région. On était plus équipés que tous les pays de l'UEMOA réunis. On avait 1200 militaires à l'extérieur dans tous les grands pays en formation pour faire face aux enjeux géostratégiques.
Que faire aujourd'hui pour avoir une meilleure école?
Donc maintenant, ce qu'il faut faire aujourd'hui, la première des choses, il faut que les Maliens se retrouvent pour s'interroger. Quelles sont les erreurs que nous avons commises depuis tout ce temps, qui ont de toute façon été commises au nom de tous les Maliens? La question n'est pas de venir accuser tel ou tel. Une fois qu'on fait ça, on regarde aujourd'hui la gestion d'aujourd'hui, qui est la conséquence de la gestion de toutes ces années. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Et on se retrouve pour définir des nouveaux paradigmes, des nouveaux repères pour redresser notre pays. Parce que s'il n'est pas redressé, nous allons tous sombrer. Qu'à Dieu ne plaise.
Je pense que faudra, faut-il
à mon avis, il faudra faire attention à des affirmations qui peuvent être péremptoires. L'armée la plus forte d'Afrique a laissé des chars au Burkina Faso et un des prisonniers au Burkina Faso. Deux.
Un char tombé en panne.
D'accord. Parlons des solutions.
Donc,
Parlons des solutions.
Aujourd'hui, ça, c'est l'armée la plus forte d'Afrique qui a fait cela. Moi, je veux simplement, il faut éviter des
affirmations. Quelle solution faut-il aujourd'hui?
Des affirmations péremptoires.
D'accord.
Quelle solution qu'il faut?
Quelle solution?
Avant de dire que la solution, je vais dire que
le territoire malien a été augmenté de 1000 km².
D'accord.
De façon incontestable. De façon incontestable, la révolution.
Merci, M. Maïga.
La révolution du 26 mars a été historiquement un pas en avant dans l'évolution du Mali. C'est incontestable.
Elle a apporté la liberté, elle a apporté le multipartisme, elle a apporté plus de routes,
comment
plus d'écoles, plus de points d'eau,
ça a apporté comme
plus de centres de santé. Elle a aussi apporté la corruption, qui est une plaie, qui est un cancer. Elle a aussi conduit à la mauvaise gouvernance qui est au cœur de la crise malienne aujourd'hui. Si nous ne nous attaquons pas à la mauvaise gouvernance, on peut passer le temps à faire les affirmations, à faire les rappels historiques, à regarder dans le rétroviseur, on n'avancera pas. Et moi, je vous dis, à ce débat, quand est-ce que nous allons parler de la situation actuelle? Quand est-ce que nous allons parler des morts de Bankas? Quand est-ce que nous allons parler
d'accord, il y a Ibrahim Daïdara qui vous pose une question. Serait-il pas mieux que ceux qui ont servi ce pays depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à nos jours se retirent?
Mais ça veut dire quoi, se retirer? Les gens posent des questions de ce genre. Le cadre démocratique et républicain a prévu un mécanisme que ceux qui veulent qu'ils se retirent ou veulent les renvoyer dans les oubliettes de l'histoire viennent sur le terrain, participent au combat politique, créent des partis politiques, s'emparent des partis politiques, pour utiliser un terme, emprunter un terme utilisé par le président Choguel Maïga, participent au jeu. Ils demandent qu'ils se retirent. Ça veut dire quoi, qu'ils se retirent? Il faut qu'eux qui disent ça, j'espère qu'il est dans un parti. S'il n'est pas dans un parti, il faut qu'ils viennent créer un parti, parce que c'est ça que la démocratie a prévu. La démocratie n'a pas prévu que les gens se retirent, qu'ils aillent comme si... Mais non, c'est pas comme
monsieur,
ça que ça
monsieur,
se passe.
Monsieur Maïga Youssouf, que faut-il aujourd'hui?
Oui, ce qu'il faut, c'est très clair. Je pense qu'il faut d'abord qu'on se parle vrai. C'est la première chose. Il faut que nous soyons à l'écoute des populations. Nous sommes là, en fait, pour servir les populations. Et non pour nous servir. Et chaque fois que nous venons aux affaires, nous devons avoir cela à l'esprit. Et il faut aujourd'hui que les Maliens puissent aussi se parler. Et se parler vrai. Et que nous voyons comment nous pouvons transformer les choses. Et la première chose à faire, à mon avis, c'est d'abord de mettre l'accent sur l'éducation. Nous devons d'abord commencer à mieux éduquer les enfants.
La jeunesse est-elle consciente de cela aujourd'hui?
Bien sûr. Mais la jeunesse n'est que, en fait, le reflet de ce que, de ce qu'on le façonne. C'est ça le reflet de la jeunesse aujourd'hui. C'est qu'il faut faire en sorte que la jeunesse puisse être mieux moulée. Parce que c'est comme de l'argile.
Donc, vous le dites ainsi, si les repères des jeunes aujourd'hui sont les vieux, ça veut dire qu'on n'aura pas de bons jeunes.
Non, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, il faut aujourd'hui que nous puissions nous attaquer au système de l'éducation. Parce que pour moi, aujourd'hui, nous tous, nous sommes des générations sacrifiées. Il faut maintenant que nous arrêtons à un moment donné et qu'on puisse se projeter sur l'avenir. Que nous puissions nous dire, les enfants, plus jamais cela.
Est-ce possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible?
C'est possible.
Il faut mettre l'accent
sur l'éducation.
Je vous avais proposé d'inviter un jeune né en 1991.
Est-ce que c'est
vous
possible?
Vous avez né quelqu'un qui n'est plus jeune. Il était jeune en 1991. Oui. Votre association, là, c'est celle de Moussa.
D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est possible, M. Maïga?
Je pense que la première des choses que les Maliens doivent faire, c'est de regarder à travers le prisme de la vérité leur histoire. Deuxièmement, qu'on tourne les pages, ça, après les avoir bien regardées, analysées et tirées les leçons, et se concentrer sur l'essentiel. Pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est réconcilier les Maliens, c'est rétablir l'outil de défense au vrai sens du terme, parce que je vois, renforcer l'école, chercher à faire l'unité de tous les Maliens pour faire face à ce que nous menace tous. La disparition du Mali, que Dieu ne plaise. C'est ça que je pense qu'il faut.
D'accord, et c'est ce qui met fin à ce débat. 26 mars, quel bilan après 28 ans de démocratie au Mali. Merci à nos trois invités, Thieblin Dramé, président du Parti pour la Renaissance africaine Parena, Choguel Kokala Maïga, président du Mouvement patriotique pour le renouveau MPR, Youssouf Maïga, président de l'Association des jeunes pour la démocratie et le progrès. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Seydou Ndao à la Régie vidéo Mamadi Keïta, je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halou Dumandi.
Chenne Berry.